Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Varel, est avec nous en studio. Jacinthe, bon mercredi matin.
Bonjour.
Tu nous écoutais dans la voiture sûrement?
Oui.
As-tu entendu la preuve que le maire Marchand et son équipe écoutent Rage Against le matin?
Oui.
As-tu quelque chose à ajouter sur la liste de cadeaux de Noël qu'on veut pour la ville, tant qu'à avoir le maire à l'écoute?
Vous en avez nommé des très bonnes. Et quand on parle d'itinérance, c'est difficile après ça d'arriver avec quelque chose de moins humain.
J'avoue, hein,
c'est ça.
Mais j'ajouterais quand même, si jamais on a de la place, puis on a un maire ou on a une ville de Québec très généreuse. Je vous avais déjà parlé l'année dernière, mais j'aimerais bien qu'on se dote de ce système-là. La ville d'Edmonton, qui a un système qui permet de suivre en temps réel toutes les activités de déneigement sur sa ville. Oh. On peut voir le nombre de souffleurs, de grattes, où ils sont, dans quel quartier, parce que c'est un système géolocalisé sur une carte. Ça permet de voir quelles zones sont priorisées, quelles artères sont priorisées en zone 1, 2, 3, en ordre de priorité. Et ça permettrait d'avoir, on parlait de transparence tantôt, il y a un auditeur qui demandait plus de transparence. Alors, ça permettrait d'avoir une transparence sur les activités de déneigement, peut-être mieux comprendre aussi pourquoi certaines zones sont déneigées en premier, d'autres ne le sont pas. Et à place d'avoir plein d'appels à la ville, les citoyens pourraient regarder là qu'est-ce qui se passe.
Oui, très bon point. Puis sûrement aussi travailler à arrêter de faire exploser ces coûts-là de déneigement. Là, 104 millions de budget pour la prochaine année. Donc, si on continue comme ça, dans 5 ans, on va être à 150 millions.
Puis bien d'actualité ce matin. Là.
Ben
oui. Tant qu'à y être, une suggestion d'idée avec la première neige qu'on
a eue. Exactement.
Ouais.
On pourrait même vérifier ou comparer le déneigement des pistes cyclables versus les rues.
Jacinthe, il faut qu'on règle quelques trucs avant de sauter dans le... On a une belle liste là, de sujets. Entre autres, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur la discussion qu'on a eue ce matin avec la co-porte-parole Québec solidaire, Ruba Gazal. Mais là, Jeff m'a appelé semi-panique là, cette semaine. Ton nom a été mentionné dans un scrum. Qu'est-ce qui s'est passé, Jeff?
Ben là, j'étais à un scrum avec Patrick Paquette de Priorité Québec, puis il y a des journalistes qui disent « Avez-vous rencontré Jacinthe Varel? » Là, j'ai dit, c'est notre chroniqueuse, ça. Elle s'en va-tu à la mairie de Québec? Qu'est-ce qui se passe? Si Jacinthe va à la mairie de Québec, moi, je suis dans son équipe, là. C'est clair, là. Hey, on y va, là. Hey,
je vais en perdre deux.
On va régler ça, l'itinérance. Tu vas voir.
Comment ça, ton nom? Qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas. Je suis pas en pourparler avec aucun parti politique à la
ville de
Québec.
Tu nous le jures?
Je vous le jure. Je suis pas en discussion avec personne. Mais bon, mais c'est sûr qu'on est en attente que quelqu'un vienne représenter une lumière économique sur la ville de Québec, une reprise forte économique qui a des préoccupations. Et pas juste qu'il va parler d'économie, parce qu'il faut en parler. C'est sûr que moi, dans mon discours, on l'entend. Je suis passionnée, je suis convaincue, je le porte. Est-ce qu'il y en a qui se disent... Donc, les gens sont à la recherche de qui pourrait bien incarner ça. Est-ce que mon nom, à un moment donné, est venu dans l'esprit de quelques personnes? C'est possible, mais je suis pas en démarche.
Pas encore!
Peux-tu nous promettre une chose?
Oui.
Si jamais tu deviens la mairesse de Québec, tu nous boudes pas, là, tu viens nous voir régulièrement, là, quand même?
Absolument.
Il fallait juste régler ça au cas où, là. On est en direct, c'est enregistré.
Puis si jamais tu s'en vas en campagne électorale, annonce-le chez nous en premier.
Ben oui!
Viens nous en
ça
parler
serait
avant,
la moindre
là.
Des choses.
Jean-Saint-Ève, t'as pensé quoi, là, de la jasette qu'on a eue plus tôt ce matin avec la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal?
C'est intéressant. Vous avez abordé plusieurs sujets aussi. J'aime votre audace d'être allée, d'avoir fait le tour de plusieurs questions là, avec elle, notamment qu'est-ce qui arrive avec M. Boisy, qui est toujours en repos ou en retrait. C'est sûr que moi, la question de la pétition, vous avez parlé, hein, c'est la pétition la plus sur la pilule contraceptive, la gratuité de la pilule contraceptive. C'est la pétition la plus...
populaire de l'histoire.
La plus populaire. Cherchez un autre terme plus professionnel.
En effet, que populaire.
Mais qui a eu le plus d'adhésion ou de signataires. Puis,
tout près de 100 000.
Oui, mais je veux faire l'avocat du diable avec ça parce que ça me tracasse beaucoup. Il y a des médicaments que la RAMQ ne rembourse pas en ce moment pour des gens qui sont atteints de maladies graves, de maladies neurodégénératives, de cancer, des médicaments qui coûtent extrêmement cher. Et moi, quand j'entends des pétitions comme ça pour payer la pilule contraceptive à toutes les femmes, peu importe leur niveau de revenu, j'ai bien la difficulté avec ça. Des filets sociaux pour tout le monde. Pensez-y, là, deux minutes. Là, ben, ma dentiste qui a des œuvres d'art à 50 000 $ affichées sur ses murs de clinique aurait droit à la gratuité de la pilule contraceptive, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se permettre des médicaments contre le cancer, certains médicaments contre des maladies neurodégénératives. Alors, je me dis, pensons-y comme il faut avant de se faire aller les bras puis dire « Hourra, hourra, il faut aller de l'avant ». Ce n'est pas parce que 100 000 personnes supportent un projet comme ça qu'on a réfléchi à toutes les conséquences et que c'est prioritaire dans notre société.
Est-ce qu'une pétition devrait faire des vagues? Moi, c'est plus là, la pertinence. De... C'est bien beau de lancer, là, tu sais, plus populaire de tous les temps, tout près de 100 000. Ça... Raison d'être, je comprends. Ça a-tu un effet, ça a-tu un impact, une pétition comme ça?
Bien, c'est important qu'on en parle. S'il y a 100 000 personnes qui se sont mobilisées, qui pensent que c'est important, oui, parlons-en. Mais justement, faut aller au-delà aussi de simplement la popularité d'une pétition. Il faut aller au fond des enjeux puis le mettre dans une liste de priorités à quelque part.
Yes. Boisy, il reste ou il part? Parce que là, tu vas prendre congé jusqu'au fête. Ça finit le 6 décembre, la session parlementaire. Là. Moi, j'ai pour mon dire qu'il va démissionner au retour des fêtes. Je pense que on va le faire justement en douce du côté de Québec solidaire pour pas que ça ait l'air de « on y a montré à la porte » puis là que notre frange extrême soit fâchée contre nous, mais je pense pas qu'on va le revoir, là.
Je le sais pas.
Ah ouais?
Oui, je le sais pas. J'ai bien de la difficulté à me prononcer là-dessus. Je pense que ça serait la bonne chose à faire, mais rien ne me surprendrait, là. Je tomberais pas en bas de ma chaise de savoir que finalement, justement, après le congé des fêtes, on espère que l'attention est ailleurs sur la politique américaine, les vagues. On a bien comme devise « je me souviens », mais on se souvient pas tant que ça.
Jacinthe, hier, on a analysé avec Fernel Morissette l'annonce de Donald Trump par rapport à la taxe douanière, oui. L'augmentation de 25 % pour taxer ce qui est exporté, donc importé aux États-Unis, du Canada et du Mexique. Depuis ce temps-là, depuis la jasette d'hier matin, beaucoup de réactions. Comment tu vois ça et comment tu as analysé la réaction, autant que ça peut être municipal, provincial ou fédéral?
Bien, j'aimais bien votre analyse là, ce matin de dire que c'était pas un bluff parce qu'il a la capacité de le faire et il a aussi le cran de le faire, la personnalité pour aller jusqu'au bout de sa menace ou de son plan de match qu'il a finalement dévoilé sur les réseaux sociaux avant-hier. Donc, c'est pas un bluff, mais j'aime bien l'idée aussi là, que Farnell dit, c'est sa stratégie de négociation, c'est sa manière de négocier. Il le fait de façon ouverte puis il nous arrive pas avec ça le 20 janvier en disant à partir de la semaine prochaine. Voici ce qui va arriver au Canada. Donc, on a un peu de temps pour nous préparer. Et ça fait partie de la négociation. Il pourra baisser de 25 % à plus bas. La façon de l'accueillir, je trouve qu'on est très émotif ici. Là. Donc là, tout le monde s'est mis à avoir peur puis à céder à la panique.
On a-tu trop paniqué, justement?
Je pense que oui, mais je sens quand même que le côté rationnel commence à embarquer. Déjà, je lisais des articles ce matin dans le journal, notamment sur l'infiltration du crime organisé au Canada, qui est visé au travers de ça. Là, quand on parle du fentanyl, ouais. On parle beaucoup des saisies aux frontières, puis on se dit « Ah, bien, il y en a beaucoup plus, rien de comparable à la frontière nord, les saisies de fentanyl versus le Mexique. » Mais il y a quelque chose de plus profond dans notre système. Il y a le blanchiment d'argent et toute l'économie financière qui soutient la criminalité qui est bien, bien implantée, notamment en Colombie-Britannique. Il y a des casinos. Les triades chinoises sont très, très bien implantées au Canada et font du travail clandestin, du travail économique qui soutiennent cette économie souterraine-là qui est importante. Donc, de voir des articles commencer à émerger là-dessus, et d'entendre certains commentateurs dire, bon, bien, maintenant, il faut s'unir, il faut parler d'une seule voix et c'est ce que j'aime. Là. On semble avoir une volonté chez les élus. Est-ce que ça va durer longtemps? Mais Premier ministre François Legault Premier ministre Justin Trudeau, Pierre Poilievre aujourd'hui à 17h, les premiers ministres des provinces vont se rencontrer avec Justin Trudeau. Donc, il y a une volonté de s'asseoir ensemble, discuter, établir une stratégie, établir un plan, comme Pierre Poilievre le disait, le chef du Parti conservateur du Canada. Donc, si on s'en va dans cette direction-là et qu'on maintient ces rencontres-là, parce que là, faut pas qu'on ait une rencontre de façade aujourd'hui à 5h, puis qu'après ça, il n'y a plus de cohésion entre les premiers ministres. Il va y avoir beaucoup d'arbitrage à faire entre nous pour choisir. Qu'est-ce qu'on est prêt de céder? Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt de céder? Ou jusqu'où on peut aller? Quels sont nos leviers de négociation? Quelles sont nos forces? Puis appuyer sur les bons boutons dans nos provinces pour offrir, en contrepartie, des éléments de négociation forts face à l'administration Trump.
Est-ce primordial d'impliquer Pierre Poilievre dans ces négociations-là? Puis je m'explique avec ce qu'on a déjà vécu aux États-Unis quand George Bush était à la fin de son deuxième mandat. Il a impliqué Barack Obama, justement, puis John McCain, qui était le présentant républicain, dans toute l'analyse et les actions qui étaient à faire pour sortir de la crise économique. Je vois un peu la même chose avec Poilievre, parce que, tu sais, même si un sondage ne fait pas une élection, on s'entend, ça va être lui le prochain premier ministre du Canada.
Absolument, il y a une transition à prévoir. L'administration Trump va être assermenté en janvier et on est en mois préélectoraux, en année préélectorale, mais en mois préélectoraux. Donc, espérons que Justin Trudeau doit avoir la hauteur requise pour inclure Pierre Poilievre dans les négociations. De toute façon, c'est tout à l'avantage de Justin Trudeau. Il est détesté par Donald Trump. Il est méprisé. Il n'est pas pris au sérieux, Justin Trudeau, je parle, là. Justin Trudeau n'est pas pris au sérieux, n'a pas la crédibilité requise pour négocier d'égal à égal face à Donald Trump. Alors, c'est tout à l'avantage de Justin Trudeau de s'allier des premiers ministres des provinces, de s'allier de Pierre Poilievre pour vraiment démontrer un bloc, un front commun. S'il n'a pas l'ego ou l'humilité de donner une place importante ou une place significative à Pierre Poilievre, il faudra qu'il nomme quelqu'un pour engager les discussions avec l'administration Trump. C'est la seule manière où le Canada pourra s'en sortir.
Ça
ne
peut pas passer par lui.
Ça peut pas passer par lui.
On est d'accord pour dire, puis en jasant avec Farnell, on l'a écouté par rapport à son bluff, on sait que Donald Trump tient les cartes. En même temps, on est d'accord, et si on écoute les différentes analyses, par rapport à l'exagération de sa déclaration, quand on passe aux 25%, ça ne peut pas être sur tout ce qui est importé du Canada. Ça ferait mal aux États-Unis aussi, que ce soit le pétrole, que ce soit l'automobile. C'est vraiment une déclaration générale et généraliste, je dirais, parce que tu ne peux pas t'attaquer à tout avec le 25%. T'es d'accord?
Absolument, absolument. C'est une grosse déclaration pour nous faire peur, pour nous faire bouger. Puis il y en a qui disaient hier, mais là, on mélange tout. S'il veut s'attaquer aux sanctions, s'il veut faire des sanctions économiques, qu'on parle d'économie, s'il parle de drogue ou s'il parle d'immigration illégale, il mélange tout. Mais il ne mélange pas tout. il ne mélange pas tout. C'est sa façon de nous faire bouger.
C'est sa stratégie,
parce que
ouais.
S'il avait un dossier propre à l'immigration et au fentanyl, puis à l'importation de drogue, puis au cartel, puis à notre manque de rigueur dans la gestion de notre sécurité des frontières, mais notre sécurité en général, notre défense, mm-hmm. On est faible là-dessus. Là. On pense qu'on vit dans un monde de Kalinours. Donc, la défense, on n'investit pas dedans, on n'investit pas dans notre armée, on n'investit pas dans, la sécurité des frontières.
On n'atteint pas nos cibles à l'hôtel.
Ben non, la criminalité s'étend chez nous à Ouaidon. Ils ont le terrain de jeu parfait. Donc, mais s'il dit, je m'attends à ce que le Canada devienne un allié, un partenaire important et qu'il prenne ses responsabilités face à la criminalité, à la sécurité des frontières, à l'immigration, s'il gère ça dans un dossier à part, on ne bougera pas. Ouais. On ne bouge pas.
Là, en mettant l'économie là-dedans.
Ben, l'histoire nous démontre qu'on ne prend pas ça au sérieux. Alors, en mettant ça ensemble, là, tout d'un coup, on devient très frileux, on devient très nerveux. Et ça nous fait bouger. La preuve, c'est que depuis bientôt 48 heures, là, on bouge beaucoup plus, on est nerveux. Le premier ministre du Canada rencontre les premiers ministres des provinces. Donc, ça fonctionne, sa stratégie. Mais non, on ne peut pas aller avec 25% surtout. Il va y avoir certainement des négociations qui vont ramener ça à quelque chose de plus rationnel.
En terminant, c'est quoi nos leviers de négociation, nous autres? T'sais, qu'est-ce qu'on a dans notre poche arrière qui peut faire mal à Trump et aux États-Unis?
Qui peut faire mal, je ne le sais pas. On est à côté d'un gros joueur. C'est la plus grande puissance économique au monde.
En effet.
C'est la plus grande puissance militaire au monde.
Ben, je change ma question
on
d'abord.
On n'est même pas deuxième.
Qui
là.
Peut les faire reculer sur le 25% quand je vais y aller de même?
Mais certainement que... J'ai parlé de défense, il n'en a pas parlé Donald Trump, mais c'est sûr que c'est un enjeu. Aux États-Unis, ils sont très sensibles à comment on protège l'Arctique. L'Arctique, je vous parle de l'Arctique, là, j'ai l'air de sortir de ça de nulle part, mais l'Arctique est très, très, très menacé en ce moment parce que la présence russe et la présence chinoise est très bien organisé, très bien implanté. Et nous ne faisons pas ce qu'il faut pour défendre l'Arctique. On ne met pas notre 2 % du PIB dans le budget de la défense, ce qui agace beaucoup Donald Trump parce que selon les règles des pays de l'OTAN, on serait supposé mettre notre 2 % Non. C'est un levier, ça. Si on dit on va le mettre notre 2 %, puis savez-vous quoi? Intensifions notre présence dans l'Arctique. commençant à construire nos fameux brise-glace qu'on dit qu'on va construire, mais qui ne se construisent pas du tout. Ayons des, pas juste des carnets de commandes, mais ayons des chantiers en cours pour construire nos brise-glace, aller défendre notre Arctique. Ça, c'est des leviers de négociation. La surveillance aux frontières aussi. Puis, tout le démantèlement des triades chinoises, notamment. Et là, il y a la Chine en dessous de ça. Il faut savoir que la Chine... La Chine est une puissance émergente, mais émergente depuis, ça fait 25 ans que la Chine se prépare. La Chine est en guerre économique depuis des décennies face à l'Occident et ça va bien leur affaire sur le plan militaire, sur le plan économique. Eux, ils sont organisés et c'est, ils ont un grand objectif, c'est de vraiment devenir la première puissance mondiale. Et ils y arrivent de toutes sortes de manières. C'est un, ça fait partie du discours sous-jacent à ce que Donald Trump exige du Canada sans nécessairement le dire. Alors, ça, là, c'est des, vraiment des leviers très importants si on est en mesure de démontrer que l'ingérence chinoise, les triades chinoises, l'occupation de l'Arctique... Et là, je vous sors vraiment du discours ambiant puis des articles qu'on lit ce matin, mais je veux ajouter mon angle particulier. Puis justement, je veux pas répéter tout ce que les autres disent.
Non, c'est ce qu'on apprécie.
C'est parfait, c'est pour ça que tu es avec nous.
Bien sûr, il y a les dossiers de l'énergie. Hein, on vend notre énergie aux États-Unis. Il y a tous ces dossiers qu'on connaît. Puis il faut savoir aussi que dans certains commerces avec les États-Unis, il y a beaucoup de marchandises qui partent du Canada, qu'on exporte vers les États-Unis, mais qui reviennent chez nous transformées, comme les pâtes et papiers qu'on envoie, nos pâtes et papiers canadiennes, qu'on envoie aux États-Unis, qui sont transformées en papier et qui reviennent chez nous. Donc, les tarifs sur l'importation, l'exportation, ça joue des deux côtés aussi. Et bien sûr, ça ferait mal à son économie, pas juste quand on exporte des biens, point final, mais faut savoir qu'il y a beaucoup de marchandises qui transitent plusieurs fois entre le Canada et les États-Unis. Donc, ça aussi, c'est nos leviers de négociation. Dernière chose, on a des diplomaties, les bureaux du Québec à l'étranger. On a des bureaux du Québec à Chicago, à New York, à Los Angeles. On en a beaucoup de bureaux du Québec à l'étranger. On a notre diplomatie canadienne aussi. Et ça, là, c'est tout du personnel non élu qui va travailler avec les entreprises américaines. Des Ford, des General Motors, General Electric, Walmart, c'est toutes des entreprises qui vont devenir nos alliés, même si ce sont des entreprises américaines, parce qu'elles vont être affectées par ces tarifs-là. Donc, il y a un travail à faire avec les chambres de commerce américaines et toutes les associations qui représentent les industries
américaines.
Pour qu'il y ait une
pression de mise sur
Trump. De l'intérieur, par les États-Unis, par des acteurs américains importants qui vont finalement dire il faut céder un peu ou il faut trouver des voies de...
faut diminuer.
Il faut trouver des voies qui vont satisfaire toutes les parties.
Se rendre un petit peu plus indispensable par rapport aux États-Unis.
Exactement.
Moi, c'est ce que j'entends.
Exactement.
Jacinthe Avarel, notre chroniqueuse politique, pour le moment... Peut-être pas la future mairesse de Québec, mais on le sait pas! On le sait pas! Hey, Jean-Saint-Ève, je te taquine. Merci d'être passé une voix, c'est toujours un plaisir. On adore jaser avec toi et continue à avoir ton angle particulier sur les différents sujets. C'est ce qu'on apprécie, comme Jeff a
dit.
C'est pour ça que tu es avec nous à Rage Against le matin.
Merci, bonne journée.
Allez, bonne journée! Rage.